France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Comment penser les marges, les figures de la marginalité sociale? C'est notre série de cette semaine. Aujourd'hui, la notion de bohème, mythe ou réalité, point d'interrogation. La bohème, c'est une chanson de Charles Aznavour après avoir été un opéra de Giacomo Puccini à la toute fin du 19e siècle. C'est le mot pour dire l'avant-garde qui vit d'amour, d'eau fraîche et de beauté, pour désigner l'artiste qui connaît déjà sa valeur et tant pis pour les épreuves de jeunesse, pour suggérer aussi le poète maudit dont la vocation par nature critique de la société ne saurait être reconnue pleinement par celle-ci. La bohème, c'est dur, mais c'est pur, et peut-être les artistes, les vrais, ne devraient-ils jamais viser à la dépasser en cherchant du succès, en cédant à la loi du marché, aux logiques des bourgeois? Car la bohème, c'est aussi l'opposé de la bourgeoisie, même si elle accueille souvent des enfants de cette dernière, d'où le mot ironique « bobo », bourgeois, bohème. La bohème a beaucoup à voir comme réalité et comme mythe avec la révolution romantique qui se déploie tout particulièrement dans la première moitié du 19e siècle. Elle est la traduction sociale d'une invention de soi-même dans la création qui affiche la rupture avec son milieu familial d'origine. La bohème a vraiment existé et sans doute se reconduit-elle plus tard dans beaucoup de mouvements d'avant-garde et de vie underground, comme on dit ailleurs qu'en France. Mais le mythe qu'elle déploie est peut-être plus fort encore que sa réalité historique. Bonjour Jean-Didier Wagner.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes spécialiste de la littérature des 19e et 20e siècles et auteur d'un ouvrage qui fait autorité sur la notion de bohème, coécrit avec François Sestor et paru en 2012 aux éditions Champvallon. Il s'intitule « Les bohèmes 1840-1870 ». Et bonjour Martine Lavaux.
Bonjour Géraldine.
Professeur à l'Université d'Artois, vous êtes spécialiste de la littérature du 19e siècle et tout particulièrement de l'écrivain et poète Théophile Gautier. Vos travaux à tous deux sont précisés sur la page de cette émission, sur notre site. Pour commencer notre conversation sur la bohème, voici un extrait du film « Les illusions perdues » de Xavier Giannoli, sorti en 2021, adaptation du roman de Balzac, publié en feuilleton entre 1837 et 1843, qui dépeint le milieu des publicistes français, feuilletonistes, critiques de théâtre, apprentis écrivains, souvent sans le sou, dans les années 1820, sous la Restauration.
Dans le quartier des étudiants autour de la Sorbonne, des âmes charitables ont indiqué à Lucien un restaurant à prix fixe, bien connu à l'époque. Le pain y était à volonté et la carafe d'eau gratuite. La pomme de terre était reine du menu et pour Lucien, depuis son humiliante soirée, la seule aristocrate accessible.
Excusez-moi de vous déranger, mais le patron m'a dit que vous étiez rédacteur dans un journal.
C'est possible, oui.
J'ai été moi-même correcteur dans une imprimerie. Alors, je pensais, si jamais vous aviez des travaux d'écriture ou de copie, pour moi...
Tu as déjà écrit quelque part ?
Un recueil de poèmes, dont on a beaucoup parlé à Angoulême.
Ah.
Tenez, je vous ai apporté des articles.
Mmh. La fameuse Gazette d'Angoulême. Impressionnant.
J'ai besoin de travailler, monsieur. On est correctement payé quand on écrit dans un journal?
Ça dépend. Cette semaine, j'ai touché 300 francs, mais j'ai déjà tout dépensé.
300 francs par semaine pour écrire des articles dans un journal?
C'est beaucoup de travail.
C'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que c'est, ça?
Bah, chiche. Avec ça, tout le monde a du talent. T'en veux?
Non, merci.
Tu t'appelles comment?
Lucien. De Rubempré.
Étienne Lousteau.
Jean-Didier Wagner, vous êtes spécialiste de la bohème de ces années-là. On est dans les années 1820. C'est dur quand même. On voit bien Lucien de Rubempré, là, qui évoque la pauvreté. On entend les rapports de pouvoir du patron de presse, humiliant d'ailleurs, ouais, à l'égard de son jeune publiciste potentiel. C'est aussi une presse tenue, il faut le dire, quand même, dans les années 1820. C'est la fin du moment de la charte de 1814, qui avait un tout petit peu sous Louis XVIII.
Oui.
Lâcher la presse, là on est sous Charles X, 1824, la presse est de nouveau très tenue. Bref, ce n'est pas très romantique cette histoire.
Certainement. Comment dire, en fait, pour tous ces jeunes gens, l'essentiel, c'est de devenir artiste. Hein. C'est le titre de la grande revue L'Artiste. C'est aussi, il y a eu aussi un texte de Félix Piat, Devenir artiste. Et pour devenir artiste, la seule solution, c'est d'en passer aussi par des travaux secondaires, c'est-à-dire assurer le quotidien en travaillant dans les petits journaux. Et les petits journaux de la restauration, là, dans le film, comment le réalisateur a pris le corsaire Satan, qui est un petit peu décalé, puisque c'est 1845, mais ce type, je dirais, de collaboration, c'est, je dirais, totalement nécessaire pour la survie de cette bohème, notamment, peut-être moins pour la bohème romantique de Martine, que pour la bohème de Murger et de ses amis, qui est une...
De Martine.
Martine Lavaux.
De ça dont elle va parler. quand à Murger, c'est un écrivain du 19e qui a parlé de la bohème. Nous allons en parler dans un instant parce qu'il a vraiment fait des petits tableaux très intéressants sur la vie de bohème qui, je me permets de le redire, est dure, très dure.
Bien sûr. Bien sûr, c'est une bohème démocratique, on y reviendra tout à l'heure.
Et d'ailleurs, on entend là qu'il commande de l'eau, je crois, dans l'extrait de Balzac. Il y avait même une expression, paraît-il, les buveurs d'eau.
C'est un groupe.
C'est quoi ?
C'est un groupe constitué.
Ils n'ont pas d'argent pour acheter autre chose, je croyais que ça voulait
dire
ça.
Non, c'est un groupe constitué. En fait, Murger, je vais en parler un tout petit peu d'abord.
Mais je vous en prie.
Alors, Murger est un fils de concierge, tout simplement, et son père est aussi tailleur, parce qu'il y a généralement un double métier à Paris, pour agrémenter le quotidien. Et donc, il va vivre dans une maison qui est assez favorisée, puisque c'est une maison qui est dans la Nouvelle Athènes. Donc, il commence à rencontrer dans les étages des gens intéressants.
Qu'est-ce que c'est la Nouvelle Athènes ?
La Nouvelle Athènes, c'est le 9e arrondissement qui a été entièrement structuré aux alentours de 1820 et où vont habiter les plus grands artistes, comédiens, écrivains. Il y a Dumas, etc. Il y a eu des fêtes somptueuses dans la Nouvelle Athènes. Alors, lui est simplement le fils du concierge, mais il rencontre des cantatrices, il y a la Malibran, etc. Et il rencontre aussi des vieux journalistes de la vieille génération de 1820, quelqu'un qu'on connaît plus aujourd'hui, qui s'appelle Étienne de Jouy, qui est un personnage extraordinaire, qui a publié je sais pas combien de feuilletons, ça fait 25 volumes, ses œuvres complètes. Et donc, il veut absolument devenir poète d'abord. Mais pour devenir poète, il faut en passer par, par le quotidien, c'est-à-dire de faire un petit peu quelque chose qui est commun, quoi. D'être une sorte d'intermittent, je dirais, de la littérature. C'est-à-dire travailler le jour dans... il aura plusieurs emplois. Il sera même secrétaire d'un agent secret du tsar de Russie. C'est textuel. Il était son secrétaire et il coloriait même des cartes stratégiques des positions militaires françaises sans savoir ce qu'ils étaient en train de faire. À un certain moment, il va rencontrer des jeunes qui vont se structurer sous la forme d'une société qui s'appelle les buveurs d'eau. Une société qui repose essentiellement sur beaucoup une dimension humanitaire et en même temps une dimension un petit peu post-Fourier. C'est-à-dire, on fait une sorte de communauté dans laquelle on partage tout. Et l'essentiel, c'est très post, Théophile Gautier, c'est de privilégier l'art pour l'art. D'abord, et ensuite de ne jamais sacrifier l'art à l'art industriel. Alors c'est essentiellement des artistes. Et Murger est un des seuls écrivains ou littéraires avec plus connu Champfleury. Voilà.
Alors le problème qu'on a, on va parler d'Henri Murger, c'est une figure extraordinaire, c'est probablement un de ceux qui est de l'extraction sociale la plus pauvre. Fils de concierge et d'une façon générale, d'une ouvrière d'ailleurs aussi. C'est un milieu, c'est vraiment difficile et évidemment c'est le rêve d'artiste typique de la bohème qui le meut. Au départ, je crois que buveur d'eau, ça voulait dire la pauvreté, mais c'est un détournement du mot pour en faire un véritable groupe.
Oui, c'est ça. C'est la seule
groupe,
c'est la boisson, hein, voilà. C'est la boisson égalitaire, voilà. qu'on prend dans les réunions. Pas de vin, voilà. L'eau, c'est égalitaire.
Mais alors, je suis attachée quand même à la chronologie, et c'est vrai qu'entre les années 1820, peinte par Balzac et ce Henri Murger, c'est pas tout à fait la même époque. Murger naît dans les années 1820. Il naît en 1822. Il n'a pas connu la période des 1800. Enfin, je veux dire comme jeune artiste, etc. Cette période 1820 et même 1830. Bon, c'est l'adolescence. Évidemment, beaucoup de monde va se retrouver dans ce milieu. Au moment de des Trois Glorieuses de juillet 1830, dans la rue révolutionnaire. Mais plaçons un peu tous ces personnages, justement, pour comprendre les évolutions de la bohème selon les époques. Martine Lavaux, vous êtes une spécialiste de Théophile Gautier. Alors, lui, il naît en 1811.
Oui.
Il est très ami avec Gérard de Nerval. Ils se sont rencontrés au collège Charlemagne, à la fin des années 1820. Et Gérard de Nerval, lui, il naît en 1808. Ces gens-là sont quand même plus impliqués dans la vie artistique et plus tard politique, journée 1830, que par exemple Murger, qui de facto naît plus tard.
Oui.
Pouvez-vous nous retracer le parcours de Théophile Gautier et de Gérard de Nerval et nous dire en quoi ils ont incarné une certaine bohème?
Oui, bien sûr. Alors, Théophile Gautier, Gérard de Nerval et puis d'autres encore derrière, hein, et puis Balzac, Dumas, sont unis déjà par un combat commun qui est le combat en faveur de Hugo avec la fameuse bataille d'Hernani le 25 février 1830, où il faut défendre une pièce romantique contre l'ordre bourgeois, ceux qu'on appelle les genoux parce qu'ils sont chauves, ils sont académiciens, etc. Donc il y a déjà un combat commun qui fédère. Il y a eu des films là-dessus hein, qui ont retracé cette jeunesse bouillonnante. Il y a la question de la jeunesse attachée à la bohème, effectivement. Il y a ça aussi, cette espèce d'obsolescence programmée de la bohème, en réalité. Et donc, ils ont tous à peu près 20 ans. Hein, et c'est absolument une vie vraiment bouillonnante. Et ce qui se passe, alors, c'est que ils vont aussi constituer, avec Nerval, avec Petrus Borel aussi, figure extrêmement importante, Célestin Nanteuil, moins connu, qui est un graveur, Jean du Seigneur, qui est un sculpteur. Ils vont constituer une communauté qui, évidemment, joue la provocation anti-bourgeoise, travaille tous les arts. Et là, il faut rappeler quelque chose, c'est que les bohèmes sont des gens qui travaillent. C'est-à-dire que... et ils insistent beaucoup là-dessus, notamment Gautier dans ses mémoires, dans l'histoire du romantisme qu'il fera paraître qui paraîtra en 1872. Ils vivent ensemble. Alors, il va y avoir, de ce point de vue-là, une communauté particulièrement importante parmi d'autres, mais quand même, c'est la communauté du Doyenné, la bohème du Doyenné.
Alors, cette rue du Doyenné, elle se situe où à Paris?
Alors, c'était dans le quartier du Louvre. Et c'était un quartier voué à la destruction.
Oui.
Tout le monde le savait. Hein. Et c'était à côté du Carrousel. L'impasse du Doyenné, c'est trois. C'était trois impasses du Doyenné. Le logement occupé par Célestin Nanteuil, Gérard de Nerval, Camille Rogier, un peintre. Et puis Gautier viendra là régulièrement. Il habite pas loin. Il habite rue du Doyenné. Son père lui a payé un petit appartement. C'est la première indépendance de Gautier, qui se trouve rue du Doyenné. Et donc, toute cette communauté vit ensemble. Il y a des fêtes qui sont organisées. Il y en aura une qui sera organisée à l'occasion de la parution de Mademoiselle de Maupin, un roman anti-bourgeois s'il en est. Et donc, il y a une communauté qui se forme là, qui est très festive, et qui est alors... On a parlé tout à l'heure des origines sociales de Murger. On ne peut pas en dire... on ne peut pas dire la même chose de tous les romantiques. Bon, Gautier est un fils d'un milieu plutôt bourgeois. Hein. Son père est inspecteur de l'octroi, des impôts. Bon, Nerval est fils de médecin, chirurgien. Il a hérité, je crois, de son grand-père. Donc
oui,
il est pas
famille de marchands de linge du côté, je
Petrus
crois,
maternel. Voilà. Oui. Et Petrus Borel, en revanche, est plus pauvre. Petrus Borel, lui, qui est au départ architecte, qui veut être architecte, il finalement renonce et publie justement aussi dans la presse. Ça, c'est contre-intuitif. Le bohème journaliste, c'est pas forcément une dimension.
On va y venir parce que peut-être que, c'est un vrai sujet en soi. Feuilletonistes, les publicistes et la bohème. Mais voilà. Restez sur Nerval
et
Gautier.
Voilà. Et Borel, Nerval, Gautier, Camille Rogier, etc. et d'autres encore qui sont conviés là, vivent et décorent même leur logement. Ils peignent les murs. Enfin, il y a une création du logement lui-même. Et donc, ils reconstituent là une sorte de monde, entre guillemets, idéal, qui n'a rien mais qui est heureux de rien, enfin, et qui est très créatif en réalité, comme l'a été le petit Cénacle. Oui. Qui s'est réuni rue de Vaugirard, chez Géant du Seigneur, disons à partir de 1929. La Bohème du Doyenné, c'est 1835, c'est à peu près à ce moment-là, enfin elle existe déjà, Gautier l'a rejoint, mais c'est à ce moment-là.
Et c'est la période où Nerval vit de petits métiers, de petits boulots, dirait-on, aujourd'hui, parce que bon, enfin c'est pas si petit, je sais bien, il y a un peu de notaire, mais on a l'impression que c'est pas l'essentiel de sa vie, l'essentiel c'est la création. Il fait un peu de notariat, il est apprenti imprimeur, oui. Il commence des études de médecine. Et puis...
Alors, vous savez, Gautier l'appelait l'hirondelle à pod. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il le dit, hein, même dans les petits châteaux de Bohème, il dit qu'il a juste un matelas et il passe de temps en temps, il est absolument incontrôlable.
Il a son lit aussi.
Il a
son lit qui transporte un peu.
Il a son lit, oui, il transporte son lit un petit peu partout. Alors, le Bohème, justement, pour le coup, est bohémien.
Ouais. Et puis donc, nomade. On va écouter un texte de Nerval sur la rue de Doyenné, mais ce qui est quand même très intéressant, vous le verrez, c'est un texte écrit tardivement, écrit en 1853. Ouais. Donc, on se demande toujours s'il n'y a pas une reconstruction a posteriori avec de la nostalgie. Alors, revenons à sa vie des années 1830. Donc, il y a un cercle qui se forme autour de Victor Hugo à partir du printemps 1830 avec la bataille de Hernani. Un peu avant février, je crois. Enfin, c'est dans cet hiver-là, avant les journées révolutionnaires de 1830. Et le petit Cénacle, est-ce un cercle autour de Hugo qui est assez festif, ou bien il y a du chahut, c'est rue Notre-Dame des Champs, je crois, ou bien est-ce un cercle très léché où on parle sérieusement de littérature et d'art.
Un petit peu les deux, hein, oui. Martine, je pense. Oui, oui. Mais je pensais en même temps, au fait. Les fêtes sont capitales dans la Bohème. Hein. Oui. Il y en aura plusieurs. Il y a la grande fête d'Alexandre Dumas qui a été imitée par tous. Il y a eu des fêtes du Doyenné.
Qu'est-ce que c'est la grande fête d'Alexandre Dumas?
C'était organisé, je ne l'ai pas en mémoire précisément, vu mon grand âge, mais c'était une fête dont tout le monde s'est souvenu, un bal costumé, etc. Parce que, en fait, le 19e siècle, c'est une mascarade énorme. Le bal costumé a une importance capitale.
Remarquez, il paraît que le 18e aussi, c'était comme
oui,
ça,
oui,
nous
mais,
ont
mais,
dit nos invités la semaine
que,
dernière.
Je pense que le 19e pense beaucoup à l'ancien régime des lettres en même temps que l'ancien régime politique. Oui. Mais il y aura des fêtes dans la Bohème, il y en aura chez Nadar, par exemple. On n'en a pas parlé encore. Nadar est un compagnon de route de Murger, mais lui beaucoup plus politique que Murger. Et Nadar a fait une fête à la dimension de ce qu'on appelle un Tivoli, c'est-à-dire un parc d'attractions au 19e, dans sa chambre de bonne, avec tout un défilé complètement délirant de costumes, de comédiennes, de grisettes, etc. La fête est très importante. Oui.
Qu'est-ce que c'est qu'une goguette ?
Une grisette ?
Une goguette.
Et après, une goguette, c'est là où on va chanter souvent. Hein, c'est là où on va
discute
chanter.
Avant ou bien on fait que
non,
du carnaval
les goguettiers
et
sont généralement une organisation qui est en grande partie ouvrière.
Hein, oui.
Et dans lequel on va réciter soit des poèmes, mais généralement des chansons.
Donc rien à voir avec les guinguettes, ne pas confondre.
Non.
Alors les grisettes, qu'est-ce que c'est les grisettes?
Alors la grisette, c'est l'ouvrière, mais la grisette, elle remonte au 18e siècle.
C'est les personnages féminins qui.
Oui, c'est les personnages féminins, c'est la compagne.
Il y a des femmes dans la Bohème?
On en verra une tout à l'heure, parce que sinon on va casser la chronologie. Oui, il y en a une très grande qui s'appelle Nina de Villars.
Ça, c'est plus tard.
On y viendra
plus tard.
Mais
les femmes, c'est plutôt les compagnes de ces
jeunes hommes, les compagnes,
les grisettes aux
ouvrières. Voilà, les grisettes. C'est les grisettes, tout simplement, parce que les jeunes filles au 19e sont quand même excessivement contrôlées par les familles.
Qu'est-ce qu'elles font, ces femmes? Elles font de la comédie?
Non, pas automatiquement. Elles sont ouvrières dans la couture. Il y en a d'autres qui sont des bouquetières. Beaucoup de métiers différents. Il y en a une qui est dans les scènes de la vie bohème, Fémie, qui est teinturière. On l'appelle Fémie teinturière. Elle a toujours les mains bien avec en couleur, quoi, pratiquement. Et alors, ce sont des compagnes naturelles, non seulement de la Bohème, mais aussi des étudiants, parce que on n'en a pas parlé. La Bohème n'est pas toute seule. La bohème règne au Quartier Latin, mais elle n'est pas toute seule. Il y a, on pourrait mettre trois ensembles. La bohème des Beaux-Arts, ce qu'on appelle les rapins, qui ont une tradition très forte de chahut, hein, et en même temps, ils ont tous leurs codes à eux. Hein, la charge du...
Vous voulez dire par là que c'est les plus installés dans, oui, dans l'intérêt pour l'art, ils font ce qu'ils veulent faire.
Oui, ce sont aussi des chahuteurs, des chahuteurs qui aiment aussi s'amuser beaucoup. La deuxième, ce sont les étudiants. Et les étudiants ont aussi une tradition bohème. On connaît bien les recommandations du père bourgeois en disant « Suis bien tes études, ne dépense pas ton argent dans les cafés, etc. » Eux aussi ont une tradition, je dirais, potachique. Et la troisième tradition qui se mêle à ça, c'est la tradition bohème murgérienne, si vous voulez, qui est celle plutôt orientée vers la littérature et les beaux-arts. D'accord. Voilà, ces trois-là fusionnent en même temps, et c'est très difficile de les séparer les unes des autres, parce que la bohème des rapins, de la charge, de la caricature, vous allez la retrouver dans la petite presse et dans l'esprit de blague dans certains journaux. La bohème des étudiants, très souvent, les étudiants vont lâcher leurs études et devenir aussi des bohèmes, c'est-à-dire perdre un petit peu leur existence, parce que le problème, c'est l'égalité dans les talents. C'est ça, le problème. Entre la volonté de devenir artiste et être artiste, il y a quand même un delta important. Donc, il y en a beaucoup qui vont échouer.
Et donc, il n'y a pas que de la joie, il y a des angoisses.
Il
n'y
a pas que de la joie, il y a
des problèmes matériels.
Et surtout, pour certains, c'est la misère la plus totale.
Alors, on va écouter successivement Nerval racontant en 1853 cette fameuse rue du Doyenné dont vous nous avez parlé, Martine Lavaux. Et puis plus tard, on écoutera Henri Murger dont vous nous parlez depuis le début et à juste titre, Jean-Didier Wagner.
C'est le régional. C'était dans notre logement commun de la rue du Doyenné que nous nous étions reconnus frères. Arcades Ambo. Dans un coin du vieux Louvre des Médicis, bien près de l'endroit où exista l'ancien hôtel de Rambouillet. Le vieux salon du doyen, aux quatre portes à deux battants, au plafond historié de rocailles et de guivres, restauré par les soins de tant de peintres, nos amis, qui sont depuis devenus célèbres, retentissait de nos rimes galantes, traversées souvent par les rires joyeux ou les folles chansons des Cydalises. Le bon Rogier souriait dans sa barbe, du haut d'une échelle, où il peignait sur un des trois dessus de glace un Neptune qui lui ressemblait. Puis, les deux battants d'une porte s'ouvraient avec fracas, c'était Théophile. On s'empressait de lui offrir un fauteuil Louis XIII, et il lisait, à son tour, ses premiers vers, pendant que Cydalise Première, ou Laurie, ou Victorine, se balançaient nonchalamment dans le hamac de Sarah la Blonde, tendu à travers l'immense salon. Quelqu'un de nous se levait parfois et rêvait à des vers nouveaux en contemplant des fenêtres, les façades sculptées de la galerie du musée, égayées de ce côté par les arbres du manège. Vous l'avez bien dit. Théo, te souviens-tu de ces vertes saisons qui s'effeuillaient si vite en ces vieilles maisons dont le front s'abritait sous une aile du Louvre? Ou bien, par les fenêtres opposées qui donnaient sur l'impasse, on adressait de vagues provocations aux yeux espagnols de la femme du commissaire qui apparaissait assez souvent au-dessus de la lanterne municipale. Quel temps heureux! On donnait des bals, des soupers, des fêtes costumées. On jouait de vieilles comédies où Mademoiselle Plessis, étant encore débutante, ne dédaignait pas d'accepter un rôle. C'était celui de Béatrice dans Jodelet. Et que notre pauvre Édouard était comique dans les rôles d'Arlequin. Nous étions jeunes, toujours gais, souvent riches. Mais je viens de faire vibrer la corde sombre. Notre palais est rasé. J'en ai foulé les débris l'automne passé.
Gérard de Nerval, lu par Vincent Bouard. Alors Martine Lavaux, on sent bien la complicité avec Théophile Gautier. On se dit même que c'est presque un couple de blagueurs, artistes qui font un peu la noce. L'expression Arcades Ambo, c'est ça un peu, c'est un couple qui fait rire, etc. Deux personnes qui font rire. On sent aussi tellement la nostalgie dans le fait qu'il dit on était bien, on était riches. Mais ils étaient riches, je comprends plus rien. Expliquez-moi cette rue du Doyenné.
Ça dépend comment vous concevez la notion de richesse. Comme je le disais tout à l'heure, le rapport à l'argent est un peu complexe. D'une part, parce qu'économiquement, tous ne sont pas pauvres. Nerval n'est pas pauvre, il a de l'argent quand même. Enfin, il a hérité. Gautier n'est pas très argenté, mais enfin, ça va. Il vient d'un milieu quand même qui le protège. Il va rentrer dans des activités de journaliste qui vont le nourrir davantage, même s'il aura toujours les poches à marée basse, comme il dira. Mais ça, c'est parce qu'il a une gestion un peu discutable. Et puis, par ailleurs, il y en a des plus pauvres, comme Petrus Borel, que je citais tout à l'heure. Hein, qui est, alors lui, son père était quincailler, il était d'une famille de 14 enfants, il était républicain, on ne peut pas le classer dans la même catégorie. Mais la richesse dont il est question, c'est vraiment la richesse de la vie amicale, de la vie créative, c'est-à-dire que c'est une ruche qui bouillonne d'enthousiasme, aussi de coups de déprime naturellement, qui est extrêmement joyeuse et créative, et surtout qui instaure un dialogue extrêmement fécond entre les arts, puisqu'on a vraiment les peintres, sculpteurs. Borel renonce à son métier d'architecte, mais c'est de là qu'il vient. Évidemment, les poètes. Et puis, n'oublions pas que Gautier lui-même était un rapin au départ. Hein. Il a été un peintre qui, finalement, y a renoncé et a fait de la littérature. Alors, tout ça fait beaucoup la fête aussi. Et je me souviens aussi d'un passage de Gautier qui raconte un moment où, avec Nerval et d'autres encore, ils sont chez Graziano, sur les Champs-Élysées, chez un aubergiste où ils mangent des pâtes. Et à ce moment-là, alors là, c'était pas de l'eau. ils boivent du vin, mais ils le servent dans un crâne auquel ils vissent une poignée de commode. Et c'est un crâne qui aurait été ramassé sur un champ de bataille qui serait passé par le père de Nerval, qui était donc chirurgien militaire. Donc voilà. Et ils boivent du vin dans ce crâne en faisant croire que c'est du sang pour effrayer les bourgeois. Donc il y a aussi ce côté potache, etc. Donc on voit que ça couvre tous les champs. Ils ont tous 20 ans. Mais en même temps, il y a vraiment une atmosphère de travail considérable. C'est ça qu'il faut vraiment souligner.
Oui. Et puis, bon, venons-en maintenant, après tous ces récits plein de saveurs, à la conceptualisation des enjeux et des idéaux de ces jeunes gens. Alors, il y a des travaux des 30 dernières années qui travaillent beaucoup sur, qui évoquent beaucoup la notion de vocation qui serait au cœur des idéaux romantiques. Judith Schlanger, en 1997, a fait paraître un livre sur la vocation au seuil, et puis en 2005, Nathalie Heinick, L'élite artiste, excellence et singularité en régime démocratique. J'avoue que ce sont des travaux qui m'ont pas mal marqué pour penser le romantisme. Cette idée qu'il faut révéler qui on est de manière innée, au-delà de son milieu social. Nathalie Heinick cite par exemple un journal des Goncourt, certes un peu plus tard, enfin 1856, tout homme de lettres devrait prendre un pseudonyme pour déshériter sa famille de son nom. Et puis elle dit aussi à quel point la figure du peintre est le modèle du créateur pour tout le 19e romantique. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Elle rappelle que de la Révolution française à 1914-18, on compte dans la littérature française environ 35 romans ou nouvelles mettant en scène des peintres. Et puisqu'on parlait de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu qui parle de la création, c'est vraiment, c'est un peintre et ce n'est pas un hasard. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette centralité de la figure du peintre comme créateur artistique, Jean-Didier Wagner?
Oui et non. En fait, oui, parce que, par exemple, relisons Manette Salomon des Goncourt, qui est un roman sur la bohème de la peinture, d'une certaine façon, avec un bohème totalement génial qu'il a inventé, un rapin qui s'appelle Anatole. Mais je pense que la vocation, le problème de la vocation fonctionne bien dans la mesure où, je dirais, comment dire, les jeunes sortent d'une famille ayant les moyens de leur permettre d'accomplir leur vocation. Mais ça se passe beaucoup moins bien pour toute une jeunesse qui, que Murger a appelé un peu la bohème démocratique, et qui repose en fait sur la charte de 1830, qui dit au moins trois choses. Les Français sont égaux devant la loi, quel que soit leur titre et leur rang. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires. Et les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions en se conformant aux lois, bien évidemment. Et donc là, la charte leur donne la possibilité de faire quelque chose qui était positif à l'époque de la Révolution française, qui s'appelait le déclassement. Et le déclassement, à l'époque de la Révolution française, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui l'ascenseur, comment dire, l'ascenseur, vous voyez ce que je veux dire.
Oui.
Tandis qu'ensuite, il se renverse de façon négative, et on parlera des déclassés au XIXe siècle, pour tous les gens qui sont, comment dire, auxquels on ne peut pas affecter une appartenance sociale, et en même temps un métier aussi. Donc, tous ces personnages, on va les appeler, Frédéric Soulier les a baptisés comme ça, les existences problématiques. Et les bohèmes font partie des existences problématiques.
Alors, donc, vocation, mission,
la vocation...
Il faut peut-être relativiser, c'est ce que vous dites.
Oui, il faut la relativiser et la
remettre... C'était le mot de Paul Bénichoux qui fait encore autorité, exactement, je crois. Ses travaux sont magnifiques sur le 19e siècle, la littérature. Martine Lavaux, qu'est-ce que vous en pensez, notamment pour Gautier, pour Nerval? Il y a quand même l'idée de développer, c'est la figure du poète sacré, disait aussi Paul Bénichoux, qui meut en profondeur la réflexion des romantiques. Il faut voir le monde... Voir ce qui est caché sous l'écorce des pierres, dira Nerval dans Vert doré. Est-ce que vous pensez que voir, peindre la nature, donc le modèle du peintre, est vraiment, comme le disent les travaux que j'ai cités, omniprésent, et peut-être aussi sociologiquement, est-ce que ce sont les peintres, comme dans la chanson d'Aznavour, qui constituent le cœur de la vie de bohème?
Alors, je pense que c'est plutôt le rapport du peintre au monde qui peut caractériser la vie de bohème, mais ce rapport peut être aussi celui du poète. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de.
Oui, oui.
C'est-à-dire que, et d'ailleurs, Gautier lui-même renonce à la peinture. Au départ, il a été apprenti dans l'atelier d'un peintre qui s'appelait Rioux. Puis il a renoncé parce qu'apparemment, il n'était pas si doué que ça et très myope, par ailleurs. Mais qu'importe, il a transporté son art de la peinture dans la littérature. C'est-à-dire que c'est un descripteur, c'est quelqu'un qui a un rapport direct aux choses, à la réalité, et ce qui fait que d'ailleurs l'opposition a priori entre romantisme et réalisme se discute très largement. Et donc je pense que, enfin, c'est la notion de poète au sens étymologique du terme qui compte. Ouais. Au-delà des distinctions entre le peintre, le sculpteur, etc. D'ailleurs, Gautier, Célestin Nanteuil, etc., enfin, collaborent les uns aux autres. L'un va écrire la dédicace ou une préface pour un volume qui sera illustré par un autre. Donc c'est vraiment un travail de collaboration. Il n'y a pas de conflit fondamental, en fait, entre ces conditions.
Peut-être que le peintre est plus visible parce qu'il est reproduit dans tous les salons de peinture et que la bourgeoisie ne lit pas beaucoup. Elle lit son journal, simplement. De là, je dirais, une sorte de déficit en librairie. Et donc, la bohème, pour elle, c'est ce qu'elle voit en premier, c'est-à-dire soit les caricatures, soit les dessins de presse, soit au salon, les tableaux. Et... Pour accéder à la poésie, c'est un peu plus difficile. Il faudrait qu'ils aillent dans les œuvres, en fait.
Une autre question qui est soulevée par pas mal de travaux des dernières décennies. Il y a, dans le romantisme, un intérêt très fort pour le... Et ça fait partie de la question des marges. Pour la folie, pour le quelque chose qui, contre la raison classique, qui avait mis un peu un couvercle, comme disait Michel Foucault au XVIIe, sur les accès de folie, la sentimentalité excessive. Bon, on n'est pas non plus les champions de la psychiatrie à l'époque, donc on s'est pas très bien nommé, n'est-ce pas? Et il est vrai qu'on a un peu mythifié les crises de folie du XIXe. Et Nerval, par exemple, en 1841, il a un vrai épisode... je sais pas comment l'appeler, mais de folie, comme on disait à l'époque. Et ça fait partie de l'idée de la création au sens des romantiques. Est-ce que ça fait partie de l'idée de comportements marginaux, cette idée qui est au cœur de la bohème, ou bien va-t-on trop loin là?
Peut-être, parce que, je veux dire, un des lieux de la bohème avec les cafés, c'est l'hôpital. Parce que dès que...
Vous y allez encore plus fort que moi, là.
Mais Murger et ses amis ont fait carrément le hit parade des hôpitaux. Celui où on est le mieux reçu. Celui où, par exemple, on peut avoir un lit dans la grande salle, juste à côté d'une fenêtre pour pouvoir écrire. Ou à côté d'un réverbère qui vous permet d'écrire la nuit. Non, ils connaissaient tout ça par cœur.
Donc l'hôpital?
L'hôpital,
ça compte, c'est un des lieux de la bohème que, précisément, elle fréquente de manière décontractée, par rapport aux bourgeois.
Elle y rentre parfois pour passer un mois. Alors, généralement, les bonnes sœurs sont très charitables, c'est normal, et les médecins aussi, donc ils leur signent signe un billet pour qu'ils puissent rentrer à l'hôpital parce qu'ils n'ont plus rien pour se chauffer, parfois plus la mansarde parce qu'ils n'ont pas payé le loyer, et donc ils vivent à l'hôpital. Donc la santé, je dirais physique et morale de la bohème passe par des hauts et des bas. Ensuite, il y a aussi des expériences qui pratiquent. Par exemple, ils jouent beaucoup avec le laudanum pour ne pas dormir, c'est-à-dire une liqueur opiacée. Plus tard, ça sera l'absinthe à 90 degrés qui va envoyer tout le monde dans les asiles de fous, parce qu'ils sont totalement Verlaine à la fin de sa vie. C'est catastrophique. Et donc, il y a une attirance pour la folie, bien évidemment.
Il y a une attirance, vous le confirmez.
Mais à travers, je pense à la littérature allemande, c'est-à-dire à travers Hoffmann, à travers tout cela, à travers le romantisme allemand, oui, il y a...
Attirance mythique, Martine Laveau, puisqu'évidemment, ça nie toutes les souffrances qu'il y a dans ces moments. Ça fait partie des mythes romantiques, ça fait partie des mythes de la bohème, plus que de la réalité qui, je viens de le dire, comporte aussi la douleur.
Vous parliez de Nerval, il est certain que sa folie est réelle. Oui. Elle est psychiatriquement, même si la notion de psychiatrie au XIXe siècle doivent être vraiment relativisées, mais enfin, ou enfin en tout cas contextualisées, mais enfin c'est un cas psychiatrique évidemment. Il a servi aussi, je dirais, de point de fixation d'une mythologie de la folie romantique, c'est ça.
Ouais. Mais un peu comme Van Gogh plus tard pour les peintres.
Oui, c'est certain. Et après, il y a une posture. Enfin, quand Petrus Borel, rue de Rochechouart, instaure aussi le camp des Tartares et que tout le monde se promène nu pour choquer le bourgeois, il y a aussi, un peu comme le feront les surréalistes, une provocation et une posture de la folie du comportement en marge. Mais ça n'est, faut pas confondre de ce point de vue-là le comportemental et la réalité psychique. Certains cas, comme Nerval, ont attiré l'attention, ont servi de point de fixation d'une mythologie de la folie romantique qui, naturellement, les attire, puisqu'on ne peut créer que en marge. Mais cette marge est une marge contrôlée pour la plupart d'entre eux. Et la marge dont parlait, la marge hospitalière dont parlait Jean Didier, c'est celle aussi de la pauvreté. C'est-à-dire, on va à l'hôpital parce qu'on est malade physiquement, pauvre, mais ce n'est pas forcément pour des maladies psychiques.
Et aussi parce qu'on y donne à manger, vous voulez dire?
Et aussi, parce qu'on y est nourri.
Oui, tout à fait. C'était un asile, en fait.
Ouais. Revenons à votre Henri Murger. Merci Jean-Didier Wagner, c'est un personnage très important et je trouve trop méconnu du 19e siècle. Né donc en 1822 et en 1851, donc en quelque sorte a posteriori, lui aussi, comme Nerval tout à l'heure, il écrit des scènes de la vie de Bohème, des petits tableaux qui vont fixer presque pour longtemps l'idée de la Bohème. Je vous propose d'écouter la préface de ces scènes de la vie de Bohème.
La bohème dont il s'agit dans ce livre n'est point une race née d'aujourd'hui. Elle a existé de tout temps et partout et peut revendiquer d'illustres origines. Dans l'Antiquité grecque, sans remonter plus haut dans cette généalogie, exista un bohème célèbre qui, en vivant au hasard du jour le jour, parcourait les campagnes de l'Ionie florissante en mangeant le pain de l'aumône et s'arrêtait le soir pour suspendre au foyer de l'hospitalité la lyre harmonieuse qui avait chanté les amours d'Hélène et la chute de Troie. En descendant l'échelle des âges, la bohème moderne retrouve des aïeux dans toutes les époques artistiques et littéraires. Au Moyen-Âge, elle continue la tradition homérique avec les ménestrels et les improvisateurs, les enfants du gai savoir, tous les vagabonds mélodieux des campagnes de la Touraine. Aujourd'hui, comme autrefois, tout homme qui entre dans les arts, sans autre moyen d'existence que l'art lui-même, sera forcé de passer par les sentiers de la bohème. La plupart des contemporains qui étalent les plus beaux blasons de l'art ont été des bohémiens. Et dans leur gloire calme et prospère, ils se rappellent souvent, en le regrettant peut-être, le temps où, gravissant la verte colline de la jeunesse, ils n'avaient d'autre fortune au soleil de leurs 20 ans que le courage, qui est la vertu des jeunes, et l'espérance, qui est le million des pauvres. Pour le lecteur inquiet, pour le bourgeois timoré, pour tous ceux qui ne trouvent jamais trop de points sur les i d'une définition, nous répéterons en forme d'axiome « La bohème, c'est le stage de la vie artistique. C'est la préface de l'académie, de l'hôtel-dieu ou de la morgue. » Nous ajouterons que la bohème n'existe et n'est possible qu'à Paris.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mulman.
Nicolas Berger, notre réalisateur, lisait ce texte de Henri Murger sur la bohème où nous apprenons beaucoup de choses. D'abord, confirmation de ce que vous nous disiez tout à l'heure, l'hôtel Dieu, l'hôpital est, oui. est présent. Ça peut être la, après la bohème, il peut y avoir ça, il peut y avoir la morgue, dit-il. Oui. Et puis, il peut y avoir la vraie vie artistique tant rêvée. Mais je voudrais aussi revenir sur un point du texte qui est l'expression « les bohémiens ». Ce qui va nous amener au problème de l'origine de ce mot bohème. Je vous écoute.
En fait, bohème vient de bohémien, c'est-à-dire les populations tziganes, roms, qui arrivent en France au Moyen-Âge à peu près. Bon, alors, bien évidemment, je dirais, c'est la lutte habituelle des sédentaires contre les nomades, et donc les bohémiens vont être jugés de façon très négative par la bourgeoisie.
Mais on disait comme ça, oui. au sens où, parce que est-ce que le mot bohémien avait déjà son sens de aussi gitan aujourd'hui
oui,
on
oui,
dirait
oui, tout
Rome.
À fait, tout à fait. À un certain moment même, les habitants de la Bohème, j'ai lu ça dans un dictionnaire. Il faudrait vérifier encore si c'est le dictionnaire dit la vérité. On dit qu'ils voulaient plus qu'on nomme les Bohémiens Bohémiens parce que c'était eux les Bohémiens habitants de la Bohème. Vous voyez, donc c'est une sorte de pataquès énorme.
Et alors on met d'autres qui sont tout à fait prosaïques. On met un accent circonflexe, on met accent aigu. Grave,
alors là, le dictionnaire de l'Académie met l'accent grave assez tôt. Oui. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, par une coquetterie, les protes dans les imprimeries mettent des accents. Je crois que Murger a dû jongler avec l'accent dans deux pages ou trois sur cinq. Quoi.
Et pour la région
allemande,
germanique,
c'est la région qui est aujourd'hui en Tchéquie en fait.
J'ai mélangé les pinceaux.
Les bohémiens sont très importants. Le regretté directeur du musée d'Orsay qui a disparu il y a pas longtemps a fait une exposition dans les années 2000 sur les bohémiens avec les représentations graphiques picturales des bohémiens dans l'histoire de la peinture française et c'est très très important. Mais la bourgeoisie voit dans les bohémiens une sorte d'adversaire, ça porte toutes leurs inquiétudes, et bohème devient une forme d'injure. Alors on va désigner à Paris, par exemple, les bohémiens de Paris, ce sont un peu les filous. Ils n'ont rien à voir avec les bohémiens, mais ce sont les filous, les petits escrocs à la petite semaine.
Les apaches.
On va parler aussi
Les apaches.
Les apaches, voilà. Mmh. On parle aussi d'un bohème qui serait comparable à une sorte de vagabond ou de SDF. Et on va parler aussi de bohèmes ou de bohémiens de lettres. Hein, c'est-à-dire tous les gens qui appartiennent au lumpen prolétariat de l'industrie de la librairie. Mm-hmm. Hein. On a quelque chose comme ça en Angleterre dans ce qu'on appelle Grub Street où il y a à la fois les imprimeurs, les écrivains à la solde, etc. Ça ressemble beaucoup à ce que Darnton a décrit pour le 18e siècle, c'est-à-dire beaucoup d'utilité de littératuriers, etc. Alors au début, avant Murger, dans les années 30 à peu près, on se moque beaucoup de cela. Dans le Figaro, on décrit les littératuriers, les gueux de lettres, etc. Et en 42, ce qui est très étonnant, c'est que dans un journal qui s'appelle Le Charivari, il va y avoir une physiologie qui va plusieurs chapitres, qui va paraître pendant 2 ans à peu près, qui s'appelle la bohème littéraire. C'est la première fois que la locution apparaît. Mais manque de chance, elle ne désigne toujours que ces gens-là, c'est-à-dire les écrivains à la petite semaine, les collaborateurs de théâtre, enfin tout le prolétariat de l'édition, du théâtre et du journalisme. Et donc, lorsque Murger dit il ne faut pas confondre bohème avec les filous, etc., il redresse un petit peu la vision bohème. Et en fait, à la fin du compte, il va renverser le stigmate avec la bohème littéraire et la bohème telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'est son objectif, c'est exactement comme en sociologie, de renverser le stigmate à partir de là.
Alors ceux qui ont fait partie de la bohème, Théophile Gautier, Nerval, vont peut-être un peu en sortir à un moment donné, justement grâce au succès, mais aussi à leur évolution personnelle. Bon, Nerval, il va partir en Orient, il y aura un grand amour qui va mal se passer, on a l'impression qu'il y a quelque chose, il prend la tangente. Gautier, c'est un peu différent. Il y a un véritable retrait, y compris des choses politiques qui intéressent la bohème. On parlait des journées de 1830, on pourrait évoquer tous ceux qui se sont retrouvés dans la révolution 1848. Gautier, lui aussi, prend la tangente, me semble-t-il, mais autrement, et peut-être en faisant de la bohème un enjeu littéraire, comme lorsqu'on voit cette troupe de comédiens dont le capitaine Fracasse qui vient chercher... alors, ce n'est pas un bourgeois, c'est un aristocrate. Ouais. Expliquez-moi le rapport ultime de Gautier, s'il vous plaît, puisque vous en êtes la spécialiste, à ce monde qui a été le sien quelques années.
Alors, tout d'abord, Gautier n'a jamais vraiment été engagé politiquement. C'est pas Petrus Borel, républicain et bousingot, comme on disait. Hein. Enfin bon, voilà. Mais il considère tout simplement que l'art, la pratique de l'art, même désintéressée et surtout désintéressée, est politique. Voilà, de toute façon, hein, quoi qu'il en soit. Il est pertinemment conscient, et ça va arriver très vite, qu'il ne peut pas échapper à la vie sociale, rétribuée, au salariat journalistique, etc. Et il va devenir journaliste attitré de la presse, entre autres, à partir de 1836. Il est rentré à la bohème du doyenné, enfin, il la fréquentait début 1835. Bon. Mais, si vous voulez, c'est vrai que de ce fait, il va synthétiser, comment dire, et s'accrocher à ce combat artistique, à cette défense de l'art qu'il faut sauver à tout prix. C'est la partie non négociable des concessions, en réalité. Et ce qui fait qu'il va défendre l'art, et même éduquer le bourgeois à l'art dans les journaux, être critique d'art, critique dramatique, etc. Et par ailleurs, dans certaines œuvres, il va en effet créer des figures qui représentent fantasmatiquement, poétiquement, l'artiste, la liberté, la marginalité. Ça va donner le capitaine Fracasse, et il y a la figure du bohémien aussi, hein, le bohémien lui-même, mais en tant que Zigane, hein, il y a Chiquita dans le capitaine Fracasse, il y a d'autres personnages qui sont, alors eux, pas des bohèmes et qui ne sont pas métaphoriques, enfin qui sont vraiment les gitans, et qui sont des personnages absolument magnifiques, qui subliment ce type. Il y avait Esmeralda avant, hein, d'ailleurs, au passage, donc mais différemment. Et donc, dans le capitaine Fracasse, effectivement, on a une troupe de comédiens. Nous sommes à l'époque Louis XIII. Et là, une sorte de généalogie un peu curieuse des bohèmes, puisque finalement, et c'est ce que disait Merger dans l'extrait qui a été lu tout à l'heure, il y a des bohèmes dans l'Antiquité, il y a des cyniques qui sont déjà bohèmes, etc. Il y en a sous l'époque Louis XIII, donc là, il lui envoie partout. Donc, mais il se fait une généalogie aussi de cette manière. Mais Gautier aussi va entretenir cette idée de la bohème Louis XIII avec des poètes comme Théophile Deviaux aussi, qui seront des marginaux. Théophile Deviaux a été condamné par contumace. Gautier a fait un portrait de lui dans les grotesques. Et donc, il va y avoir une sorte d'identification rétrospective des artistes bohèmes à des figures du passé, caractérisées aussi par l'art à tout prix, la marginalité, l'exclusion politique, etc. Donc c'est vrai que dans le registre, dans le domaine de la création, le fait de typifier le bohème dans des personnages absolument magistraux ou dans des situations historiques à l'époque Louis XIII, ça va être extrêmement important. Voilà, c'est une autre manière de continuer à faire vivre le type en le magnifiant. Ouais. Voilà.
Mais il y a tout un parcours des bohémiens dans le romantisme qui va se poursuivre même jusqu'à un roman des Goncourt qui s'appelle Les Frères Zemgano, où Jules et Edmond sont des artistes, des saltimbanques en même temps. C'est ce qu'a montré un petit peu à développer Jean Starobinski dans Le Portrait de l'artiste en saltimbanque. Et cette dimension de proximité entre bohémien et bohème littéraire est très forte. De même qu'entre bohème littéraire, du moins une partie de la bohème, peut-être pas toute, et avec le peuple pauvre parisien, à travers des figures comme, je voudrais citer au moins le nom d'Alexandre Privat d'Anglemont, qui est un des premiers reporters sur les bas-fonds de Paris, qui signe deux livres qu'on peut trouver d'ailleurs, je crois, dans les cahiers rouges chez Grasset, Paris Anecdote, qu'il a publié de son vivant, et Paris inconnu, qui a été constitué par ses amis avec ses articles, où il parle des chiffonniers, où il parle des bas-fonds de Paris, de la place Maubert, et tout ça. Et donc, il y a cette communauté est très, très forte. Hein.
La bohème n'existe et n'est possible qu'à Paris, c'est la phrase d'Henri Murger, elle est un peu peut-être excessive.
Elle est un peu prise aussi à Balzac, à Un prince de la bohème.
Enfin, il est vrai que Walter Benjamin, le philosophe, a dit que Paris a été la capitale du 19e siècle. Je vous propose de ne pas avoir ce débat maintenant, mais je voudrais que vous disiez un mot avant la fin de l'émission de Nina de Villars, salonnière, tenant un salon, proche de la bohème, peut-être même en faisant partie de celle-ci, vous me le direz, née en 1843, morte en 1884, je vous écoute.
Oui, Nina de Villars est la fille d'un banquier lyonnais très riche, en fait, mais qui va se prendre d'amitié pour les artistes. Elle est poète, elle-même. Elle est aussi concertiste, c'est une pianiste, elle a joué souvent en concert. Elle va ouvrir un salon avec tous ses amis, et ce salon va être le salon le plus bohème qui puisse exister. Elle disait, pas besoin d'un ami pour être reçu chez moi, un sonnet suffit. Et donc, c'était pas un salon régulier, on y entrait comme on voulait, c'est un peu une auberge ouverte de manière constante.
Et c'est plus tardif que les années 1820 peintes par Balzac,
on est entre 1860,
bien plus tardif, voilà. Et ça a changé l'ambiance par rapport aux années 1820-1830, ce qu'on a appelé la génération 1830.
Oui, non, je pense pas. Il y a une continuité. En fait, il y a une sorte de passage de témoin entre les bohèmes, en fait. Et ça ira jusqu'en 1880 avec les hydropathes et le club du chat noir, etc. Où Goudot titre les mémoires qui sont plutôt, je dirais, une peinture de cette génération, 10 ans de bohème. Tout simplement parce qu'il a lu de façon très attentive un livre qui paraît dans la revue qui s'appelle La Renaissance littéraire artistique de Firmin Maillard et qui s'appelle Les derniers bohèmes, Murger et son temps. Voilà.
Et pour finir notre conversation, cet extrait de La Bohème, l'opéra de Giacomo Puccini, composé entre 1892 et 1895, qui reprend d'ailleurs les grandes entrées du roman feuilleton Scène de la vie de Bohème de Henri Murger, dont nous avons parlé ce matin. Merci beaucoup Martine Laveau, Jean-Didier Wagner. Les références de vos travaux sont sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms qui cette semaine s'intéresse au fait de prendre soin de nous. Voici le pourquoi du comment. «
Pourquoi faut-il prendre soin de l'âme ? Nous sommes à Prague en 1973 et le philosophe Jan Patočka commence un séminaire de philosophie clandestine. Un séminaire clandestin parce qu'il est soumis à la répression du régime communiste. Nous sommes à Prague en 73, 4 ans avant 1977, l'année de la charte 1977 où Jan Patočka jouera un rôle si important qu'il sera conduit en prison et à la mort. Dans ce séminaire de 1973, Patočka commence par décrire l'état du monde, une description extraordinaire de ce qu'il appelle la situation générale de l'humanité présente en 1973. C'est une situation si grave qu'elle nous rappelle la situation du monde d'aujourd'hui et il faut revenir à ce diagnostic de 1973 pour comprendre comment le rôle de la philosophie est en effet d'affronter les dangers globaux, les dangers nouveaux aussi, historico-politiques qui affectent l'humanité tout entière. Pourtant, il y a un coup de théâtre qui doit nous faire réfléchir dans cette première leçon et dans la suite du séminaire clandestin du grand philosophe Jan Patočka. C'est que, au lieu de décrire objectivement les catastrophes du monde, il nous oblige à un pas en arrière. Il nous oblige à comprendre que pour répondre aux dangers du monde, il faut d'abord prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de quelque chose en nous-mêmes, pour lequel il retrouve un terme de la philosophie antique, à savoir l'âme. Oui, l'ensemble du séminaire va porter non pas sur la situation du monde, malheureusement peut-être, car la première leçon est si extraordinaire, mais sur ce qu'il appelle le soin de l'âme, le soin de notre âme, le soin de ce qu'il y a de plus profond dans notre subjectivité, pour lequel il retrouve cette notion de la philosophie antique, qu'il retrouvera d'abord chez Platon, cette notion de l'âme, d'où le titre du séminaire encore énigmatique, Platon et l'Europe. Le geste fondamental de ce séminaire de Patočka consiste à nous faire comprendre que face à la situation gravissime du monde, nous avons tendance à négliger les capacités de notre esprit, notre subjectivité elle-même. Or, ce que dit Patočka, c'est le contraire, c'est que pour affronter la situation objective du monde, il faut retrouver en nous la capacité subjective à l'affronter, ce que les philosophes grecs appelaient l'âme. L'âme, ce n'est pas n'importe quelle capacité de notre subjectivité. L'âme, dit Patočka, retrouvant Platon et toute la philosophie antique, l'âme, c'est ce qui, en nous, est capable de vérité, ce qui est capable de se détacher de ses angoisses personnelles, de sa situation individuelle, pour accéder à l'universel, à la vérité, des mathématiques jusqu'à la politique et la justice. L'âme est ce qui en nous est capable d'universalité. Or, cette âme en nous, elle est fragile. L'idée même de soin de l'âme que les philosophes antiques ont développé depuis Platon jusqu'aux stoïciens et aux épicuriens notamment, l'idée de soin de l'âme montre que paradoxalement, cette capacité à atteindre l'universel, à atteindre ce qui n'est pas ébranlable, à atteindre les fondements, cette capacité à atteindre les fondements est elle-même fragile. La capacité à atteindre l'inébranlable est elle-même ébranlable. Or, la subjectivité des êtres humains dans l'Europe de 1973 semble à Patočka extrêmement fragilisée. Et donc, il faut faire ce pas en arrière, ce qui justifie peut-être ces actes de résistance, cette résistance héroïque des dissidents, des années 1970, c'est aussi ce pas de côté vers le soin de la subjectivité. Il faut donc prendre soin de nous, prendre soin de l'âme pour répondre aux dangers du monde.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Nicolas Leroulet. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mellet et toute l'équipe d'Avec Philosophie que je remercie, Carla Michel, Anna Fulpin, Nassim Elkabi et Corinne Amar. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.